Qualité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À la veille du SIDAction, nous vous proposons deux émissions spéciales sur les avancées dans la lutte contre cette maladie. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du rôle des associations de malades. On peut dire que c'est grâce au travail de ces associations que les rapports médecins-malades ont changé. Les médecins se sont retrouvés en face de patients qui finalement en connaissaient plus qu'eux. C'est aussi grâce à la mobilisation des associations que les traitements sont arrivés dans les pays en développement. Mais beaucoup reste à faire. Est-il d'ailleurs possible d'envisager un monde sans SIDA? Vendredi, on consacrera une deuxième émission au SIDA et là, c'est le professeur Delprécy qui dirige l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le SIDA, qui répondra à toutes vos questions sur les avancées de la recherche. Et aujourd'hui, je reçois deux confrères journalistes, Hélène Cardin et Daniel Messager. Hélène a travaillé à France Inter, Daniel Messager est toujours journaliste à France Inter. Elles viennent de publier ensemble La Révolution SIDA aux éditions Odile Jacob. Et si vous avez envie d'apporter un témoignage sur le rôle des associations dans votre pays, appelez-nous au 33 1 84 22 75 deux fois. Je répète, 33 1 84 22 75 deux fois. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Serge Ollier du CHU de Trècheville à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano qui nous parlera du préservatif.
RFI.
Hélène Cardin et Daniel Messager, bonjour.
Bonjour.
Docteur Catherine Solano, bonjour également.
Bonjour Claire.
Merci à toutes les deux d'être là, Hélène et Daniel. C'est un plaisir de vous voir parce qu'on se croise assez souvent dans des congrès, des colloques, entre autres sur le SIDA. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord sur le SIDAction. Est-ce que c'est quelque chose qui reste important, ce SIDAction, Hélène Cardin?
Ah oui, ça reste important parce que le monde de la recherche dans le domaine du SIDA a toujours besoin d'argent. On n'a pas résolu tous les problèmes comme beaucoup de gens le croient. On ne guérit pas du sida, on ne se débarrasse pas du virus du sida, donc il faut poursuivre la recherche. Les traitements, petit à petit, ont des effets secondaires qui sont trop importants. Il faut changer de traitement, donc on a encore besoin d'argent. Il faut continuer à donner pour la lutte contre le sida.
Et pourtant, Daniel Messager, le SIDAction ne rapporte pas énormément d'argent, finalement.
Non, c'est quelques millions, effectivement, par rapport à quelques dizaines de millions au début du SIDAction, mais c'est important parce qu'au moins, c'est l'occasion de parler du sida. C'est vrai qu'on a de plus en plus de mal dans nos rédactions à évoquer le sida. On a le sentiment qu'on en parle depuis tellement longtemps, qu'on est parvenu maintenant, tout du moins, à soigner les malades, même si on ne les guérit pas totalement. C'est une affaire un petit peu entendue. On en parle quand il y a une grosse découverte. Évidemment, si demain, on découvre le vaccin contre le sida, bien évidemment qu'on va en parler. Mais sinon, c'est assez difficile d'en parler au quotidien, alors que c'est une maladie qui est encore présente au quotidien, et au moins, le SIDAction, c'est l'occasion d'en parler.
Il y a quelque chose de très important que vous dites dans votre livre, c'est que le sida a changé d'abord les rapports entre médecins et malades. Pourquoi, Hélène Cardin?
Ben, tout simplement parce que pendant les 15 premières années de l'épidémie, il n'y avait aucun traitement. Les médecins n'avaient aucun pouvoir de soigner. Donc, il a fallu partager le savoir, essayer de trouver des informations que quelquefois les patients avaient avant leur médecin. Et bien évidemment que le médecin, il est descendu de son piédestal. Il est devenu une sorte de conseiller, il n'était plus un médecin soignant traitant.
Et Hélène, vous avez suivi, je dirais, le sida depuis les tout débuts.
À tout début. Tout début, je crois d'ailleurs que je suis la journaliste française qui a écrit le premier papier et qui a raconté la première fois dans un micro
qui concernait ce qu'avait constaté le CDC d'Atlanta.
Exactement. Exactement. J'étais à l'époque à France Culture et juste après, je suis allée à France Inter, où pendant plus de 30 ans, j'ai parlé en effet du sida et j'ai eu la très grande chance d'annoncer les trithérapies en 96 qui ont changé absolument tout. Les gens, c'est vrai, qui sont séropositifs et qui sont malades du sida, sont aujourd'hui bien traités. C'est comme ça aussi qu'on croit que le sida n'existe plus ou est guéri. Et ça, c'est un problème puisque nous avons en France 7000 nouveaux cas de contamination par an.
Oui, ce qui reste très étonnant, on y reviendra d'ailleurs sur toutes ces questions de prévention. Pour continuer sur ces changements de rapport médecin-malade, est-ce qu'on peut dire que c'est les associations qui ont aussi permis ce changement-là?
Mais oui, suite de mon propos, le pouvoir médical ne pouvant s'exercer, eh bien le fameux pouvoir a été pris par les associations. Les associations sont venues auprès des malades, les associations se sont occupées de la lutte contre la douleur, des soins palliatifs, etc. Les médecins, quand ils ont vu les associations arriver dans leurs services, dans les hôpitaux, ils étaient complètement affolés et ils se sont aperçus très rapidement que ces associatifs étaient extrêmement utile, et ces associatifs ne sont jamais repartis des hôpitaux.
Ils sont toujours là. Daniel Messager ?
Oui, en plus de ces modifications entre le pouvoir médical et les malades, où effectivement il y avait la connaissance d'un côté et puis les autres qui subissaient en bas, ce que ça a changé aussi, c'est que plus jamais, maintenant, on ne prend des décisions de santé publique sans consulter des associations de malades. Ça s'est vu après avec les états généraux du cancer, ça s'est vu pour l'établissement de la loi sur le droit des malades. C'est grâce aux malades du sida, à la connaissance qu'ils avaient de la maladie, à la place qu'ils ont prise dans la société, que maintenant, dans différentes maladies, on ne peut plus agir sans prendre compte, sans tenir compte des malades.
Et pourquoi ces associations ont-elles été particulièrement actives ? Pourquoi il n'y a pas eu la même chose avant, finalement, sur le diabète, le cancer ? Il y avait, voilà.
Parce que ce n'est pas les mêmes gens. Les premiers malades, les premiers séropositifs ont été des homosexuels qui venaient de finir leur lutte pour obtenir les droits. C'était des jeunes hommes qui avaient fait des études tout à fait extraordinaires, qui avaient un entre-gens formidable, qui connaissaient énormément, énormément de gens, et qui savaient ce qu'était la lutte, ce qu'était un combat. Derrière, se profilait déjà Daniel Defer, notre philosophe sociologue, qui était le compagnon de Michel Foucault. Michel Foucault est mort en juin 84. Daniel Defer a fondé, dès début 85, l'association AIDE, uniquement des associatifs qui n'avaient qu'une seule revendication. Cette maladie, elle appartient aux malades, elle appartient pas aux médecins.
Et ça, vous dites finalement, c'est lié justement à l'homosexualité, à fait
absolument.
Que c'était déjà des combattants et des gens réunis en association. Et c'est aussi grâce à ces associations que les traitements, vous avez dit au moment où ils sont arrivés, ils se sont battus aussi pour qu'ils arrivent au Sud.
Absolument, ils ont été évidemment les premiers à en parler en disant il y a une inégalité, une injustice absolument phénoménale dans ce monde. Les malades du Nord sont soignés et les malades du Sud, qui sont infiniment plus nombreux, ne sont pas soignés. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin, soutenue d'ailleurs par Jacques Chirac, par Kouchner, et puis après repris par Kazatchkine, etc. Et le Fonds mondial a été créé comme ça. Le Fonds mondial actuellement qui permet les soins de 8 millions de personnes dans les pays.
Et même s'il y en a encore autant qui ne bénéficient toujours pas de traitement.
Il y en a même plus.
Même plus. Donc ça en fait encore beaucoup de monde. Daniel Messager, ce qui est intéressant aussi dans ce combat associatif, c'est que ces malades se sont battus pour avoir accès au traitement le plus tôt possible, même, je dirais, avant une autorisation de mise sur le marché.
Bien évidemment, l'ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation, c'est grâce à eux aussi. Moi, je me souviens très bien, avec l'arrivée des trithérapies en 96-97, le mouvement phénoménal qu'il y a eu auprès de ces associations pour dire maintenant on le sait, un médicament, une trithérapie existe, on va pouvoir en bénéficier et on ne va pas attendre une autorisation de mise sur le marché qui serait l'autorisation officielle qui va passer par on ne sait combien d'instances et pendant ce temps-là les gens vont continuer à mourir, ça c'est pas possible. Donc ils avaient une telle force de combat, ils avaient une telle force de persuasion avec la connaissance, on y revient, qu'ils avaient de cette maladie, qu'ils pouvaient faire bouger des montagnes, c'est ce qu'ils ont fait et c'est grâce à eux que des milliers de vies ont été sauvées. Parce que les malades ont pu acquérir justement ces trithérapies avant une autorisation officielle de mise sur le marché.
Et ils continuent à le faire puisque finalement maintenant ces associations participent à des programmes de recherche.
Il y a des membres d'associations qui sont devenus des chercheurs. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a eu aussi quelque chose qui a été très très important, qui est une exception française. Il y a eu en 1992 la création d'un groupe tout à fait incroyable qui s'appelle le TRT5. C'est un groupe qui regroupe des militants des associations, des institutionnels et des membres des laboratoires pharmaceutiques. Depuis 92, ça existe. Ils travaillent ensemble, ces gens-là, uniquement sur les médicaments. Ceux qui sont à venir, ceux qui sont utilisés et qui ont des effets secondaires qui sont trop importants, les associations et tout. Et ce fameux TRT5, dont on ne parle jamais, a permis d'avoir en France les médicaments avant les autres pays.
Et qui réunit des associations qui sont en soi assez différentes, qui sont d'ailleurs pas toujours d'accord entre
elles. Mais qui se battent tout le temps. Il y a deux associations, il y en a une de trop. Eh bien, au TRT5, elles s'entendent très bien. Elles sont obligées de bien s'entendre. Et elles font ça depuis 1992.
Et alors, vous l'avez dit au début, hein, les médecins ont vu arriver ces associations d'un regard un peu bizarre. Aujourd'hui, au contraire, je pense que les rapports sont plutôt excellents, même si de temps en temps, ça s'affronte.
Mais les rapports sont excellents. Et Jean-François Delfrécy, que vous allez recevoir bientôt, vous le dira. Lui, il a été saisi, on le raconte dans le livre, il a été saisi quand il les a vus arriver, parce que ça bouleversait totalement tout ce qu'il avait imaginé de sa carrière professionnelle. Et maintenant, il dit, je ne pourrais plus travailler sans eux. Bien évidemment, ils sont d'une importance considérables. Et ils doivent être maintenant, les associations de patients se sont multipliées depuis, et les associations doivent être représentées dans tous les niveaux des prises de décision. C'est ce qu'on appelle la fameuse démocratie sanitaire.
Hélène Cardin et Daniel Messager, dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup des rapports Nord-Sud, et si vous le voulez bien, on va partir au Sud, justement, en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle de la lutte contre le sida avec deux journalistes, Hélène Cardin et Daniel Messager, qui viennent d'écrire ensemble La Révolution Sida. C'est un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob, avec la participation aussi du professeur Françoise Barresino aussi, hein, prix Nobel de médecine. Et on a au téléphone le professeur Serge Éolier, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville, à Abidjan. Il est aussi responsable d'essais thérapeutiques sur le VIH à l'ANRS, à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida. Professeur Éolier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous connaissez bien mes deux invités, Hélène Cardin et Daniel Messager. Hélène, vous avez été souvent en contact avec le professeur Éolier. Vous en parlez dans votre livre,
d'ailleurs. Oui, et en plus, j'admire beaucoup ce qu'il fait. Il est excessivement sympathique.
Alors, on était en train de parler, professeur Éolier, du changement de rapport entre les malades et les médecins, grâce, on pourrait dire, finalement, à cette épidémie de sida. Est-ce que vous trouvez aussi en Côte d'Ivoire que ça a changé le rapport médecin-malade ?
Oui, je pense que ça a beaucoup changé le rapport médecin-malade, tout simplement parce qu'on est passé de relations qui n'existaient pas, parce que c'est la prise en charge de maladies aiguës, à des relations qui sont tissées avec le temps, dans le cadre de la chronicité. De plus, la plupart des médecins vieillissent avec les malades. Et donc, on a des relations que je pourrais qualifier de fraternelles dans un certain sens, parfois conflictuelles, parce qu'il y avait des incompréhensions entre les malades et les médecins. Mais maintenant, ça se passe mieux. Et c'était le rôle des associations et le rôle des médecins qui ont acquis une certaine humilité devant l'infection VIH.
Et alors, Daniel Messager, tout à l'heure, disait que ça a aussi changé le rapport médecin-malade et la question de la santé publique sur d'autres pathologies. Est-ce que vous trouvez aussi la même chose en Côte d'Ivoire ?
Oui, je pense que l'infection VIH a permis un renforcement du système de santé. Mais nous avons appris dans l'infection VIH d'autres pathologies. Le diabète, par exemple, avait déjà des associations. C'est une maladie chronique. Il y avait des associations dans le cadre des insuffisances rénales et des dialyses, mais c'était des associations qui étaient plutôt orphelines et qui ont compris qu'il fallait se mobiliser. Mais le plaidoyer le plus fort, c'était dans le cadre du VIH. Et les autres associations, les autres pathologies chroniques, apprennent aussi à faire un plaidoyer et à comprendre qu'il faut mutualiser les forces. On ne peut pas que faire l'infection à VIH. Mais l'infection à VIH sert aujourd'hui de booster pour toutes les autres maladies. Aussi bien chronique que vue.
Pour l'ensemble du système de santé. Ouais. Professeur Éolier, est-ce que cette épidémie de sida a aussi changé les liens nord-sud dans le domaine de la recherche, entre autres, qui est le domaine sur lequel vous travaillez ?
Oui, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est plus dans une relation de base dominant-dominée. Je pense qu'aujourd'hui, on a un partenariat qui veut dire qu'on partage nos connaissances et nos convictions. La conviction que l'on a, c'est de soigner et de bien protéger les patients affectés par le VIH. Et aujourd'hui, ce sont des idées que l'on met en commun et l'on décide ensemble des projets de recherche qui sont aussi bien de sciences médicales que de sciences sociales, pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients infectés. Et ça sert aussi, pour certains des résultats, à améliorer la prise en charge des patients au nord.
Oui, alors c'est très très important ce que vous dites là. C'est qu'on est en train de découvrir que des recherches au sud servent aussi au nord. Vous auriez un exemple à me donner ?
Ben oui, je peux vous donner un exemple qu'on a fait dans le cadre de la recherche avec l'ANRS, qui était le projet Trivacan, sur les intéressants thérapeutiques programmés. Nous avons démontré qu'il n'y avait pas d'intérêt ni de bénéfice à faire des intrusions thérapeutiques programmées. Il y avait un effet en Europe qui se faisait, je dirais au Nord, qui était l'effet SMART, mais ces deux effets, écrits vacants d'abord en premier, ont montré qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire ces intrusions thérapeutiques programmées. Il y a aussi un intérêt qui est en cours, l'effet Tempranos sur le traitement antirétroviral précoce, qui est cité aujourd'hui par l'OMS comme l'effet attendu en termes de résultats pour revoir les modifications de décisions thérapeutiques. C'est un effet ANRS aussi, c'est un panneau qui s'est fait en Côte d'Ivoire.
Hélène Cardin, une réaction par rapport à ça. Nous, on en parle souvent dans Priorité Santé sur RFI, de ces échanges Nord-Sud dans le domaine de la recherche. Moi, j'ai l'impression que dans le grand public, ça ne se sait pas assez à quel point cette recherche devient de haut niveau en Afrique.
Mais ça ne se sait pas du tout. Pas du tout. Alors que la recherche, en effet, a été, si je puis dire, complètement boostée en Afrique par, justement, la lutte contre le sida et tous les travaux autour du virus. Ça, c'est évident. Et ce que disait Serge Héolier est, en effet, tout à fait intéressant, puisque maintenant, on commence à adopter des stratégies au Nord qui ont prouvé leur intérêt et leur efficacité au Sud. Donc ça, c'est absolument formidable, bien évidemment.
Daniel Messager, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, on peut aussi ajouter l'exemple des essais sur la circoncision qui ont été faits au Sud et qui apportent...
Entre autres en Afrique du Sud.
Absolument, et qui apportent un enseignement absolument considérable. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il est quand même inimaginable aujourd'hui de repenser à ce qu'était au début l'accompagnement avec la trithérapie dans les pays du Sud, puisque au début on disait quand même mais ça va être compliqué ces gens-là entre guillemets,
on disait ils n'ont pas de montre, ils
voilà,
sauront pas à quelle
ils n'ont
heure
pas
prendre
de montre,
les médicaments,
ils vont pas bien suivre leur traitement, ça va pas bien se passer. En gros, est-ce que c'est utile de leur fournir les médicaments? On revoit ça avec le recul, on est absolument scandalisé.
Plus personne n'oserait dire ça.
Plus personne n'oserait dire ça, mais c'était quand même ça au début. Mais pourquoi voulez-vous que des gens qu'ils habitent au nord ou au sud, à qui on donne des médicaments et qui vont se sentir mieux avec, ne les prennent pas? Et bien ça, à l'époque, on n'entendait pas, ce qui est quand même assez dingue.
Et professeur Héolier, est-ce qu'on n'en est pas même à dire de temps en temps que les patients du sud sont presque plus observants que les patients du nord?
Non, je ne dirais pas ça.
Vous ne diriez pas ça?
Il faut toujours faire la différence entre des résultats que l'on a dans un essai qu'on propose à des patients des facilités de suivi qui disent qu'il y a une meilleure observance et la vie réelle. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce sont tous des hommes qui prennent des traitements au long cours et avec lesquels on doit s'adapter. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'adapter aux patients, pas demander aux patients de s'adapter à nous. On pourra avoir une meilleure observance, qu'on soit au nord comme au sud.
Professeur Héolier, juste une dernière question. Quelle est pour vous la plus grosse difficulté actuellement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire dans cette épidémie de sida?
J'essaierai de parler peut-être de l'Afrique modestement, l'Afrique plutôt francophone que je connais mieux. En fait, actuellement, nous avons dans notre pays la majorité des subventions de traitements qui sont fournies par les bailleurs internationaux, qu'il s'agisse du Fonds mondial et du PEPFAR, pratiquement à hauteur de 95%. Il manque réellement une appropriation de la prise en charge, du financement de la prise en charge par le gouvernement du Sud. Il y a des déclarations, bien sûr, mais la mise en œuvre n'est pas réellement faite. Ça va venir. Il y a pas mal d'initiatives sur les assurances maladies universelles qui sont en train d'être faites. Mais encore une fois, on ne peut pas faire une assurance maladie que pour les patients affectés par le VIH. Comme je le disais dans le livre d'Hélène Cardin, il est difficile pour moi, un sexologue, de soigner un patient gratuitement parce qu'il a une méningite violente et affectée par le VIH et l'autre qui a une méningite violente et non affectée par le VIH. Si vous voulez, ça devient la stigmatisation à l'envers. Donc, il faut que le financement soit fait pour la prise en charge de la maladie en général dans nos pays en profitant de l'infection à VIH.
Et entre autres, avec la mise en place d'une assurance maladie, c'est vraiment très important. Je sens qu'Hélène Cardin va vouloir réagir, mais elle va réagir juste après les informations dans 3 minutes. Merci beaucoup, Serge Héolier. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler entre autres du travail des associations dans la lutte contre le sida.